profite de toi, de l'âme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer en toute légalité. Que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'âme. L'émission explore les dimensions juridiques et philosophiques de la doctrine des droits de l'homme. C'est un corpus de textes qui dépend des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l'homme et des pactes jumeaux de l'ONU sur les droits civiques et politiques et les droits économiques et sociaux. Ces textes comportent un volet important sur la lutte contre les discriminations et l'antiracisme. Nous pouvons citer notamment l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que « Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, quelle que soit la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses et ses origines. » Ou alors l'article 26 du premier pacte de l'ONU qui prévoit que « La loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » En France, les deux associations particulièrement connues pour leur lutte contre le racisme sont SOS Racisme et la Maison des Potes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Thomas, ayant travaillé depuis de nombreuses années pour ces deux entités, et aujourd'hui président chez Maison des Potes, Maison de l'Égalité. Samuel Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez initialement étudié dans le domaine des sciences. À quel moment vous vous êtes dit « je vais faire carrière dans le combat contre le racisme »
Ben, en fait, déjà pendant mon lycée, il y a eu... la marche pour l'égalité de 1983, et j'ai participé à cette marche pour l'égalité. Quand je faisais mes études, il y avait la création d'SOS Racisme, et j'étais impliqué en même temps que mes études dans SOS Racisme. Puis je faisais mes études de biologie, en fait, pour pouvoir me consacrer au développement agricole, au développement en Afrique, et je suis parti quelques mois soutenir la révolution de Sankara au Burkina Faso, au milieu de mes études, en fait, entre mon DEUG et ma licence. Quand je suis revenu de ce voyage humanitaire, j'ai réalisé qu'en réalité, il y avait beaucoup à faire en France déjà contre les injustices et les inégalités qui frappaient les populations immigrées et qu'il fallait que j'y consacre tout mon temps, mon énergie. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai beaucoup œuvré sur les combats antiracistes. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai fait mon service civil pendant 2 ans à SOS Racisme au lieu d'aller faire l'armée. Et puis finalement, j'ai travaillé à construire des maisons des potes dans les quartiers. Et après, donc, j'ai fait, on va dire, valider dans différents parcours universitaires le fruit des enseignements que j'avais reçus sur le terrain. Et puis finalement, je suis devenu, on va dire, un expert en droit contre le racisme et les discriminations. Et donc, j'ai fait valider ça par un Master 2. Et puis, j'ai continué comme directeur juridique d'SOS Racisme. Et puis, directeur juridique de la Fédération des Maisons des Potes, a mené de pair, en fait, la mobilisation populaire et le combat judiciaire contre le racisme et les discriminations.
Alors, justement, vous avez entamé le Master un peu plus tard. Qu'avez-vous appris pendant ces études et qu'est-ce qui a changé dans votre approche dans les combats juridiques que vous menez?
Qu'il y avait un enjeu, parce que moi j'ai fait un Master 2 en conduite et évaluation des politiques publiques, il y avait un enjeu d'essayer de vérifier comment est-ce qu'on met en accord une annonce d'une politique de lutte contre le racisme, une annonce d'une politique de lutte contre les discriminations, une annonce d'une politique pour résoudre les inégalités ou faire reculer les inégalités, et puis l'effectivité de cette politique pour comparer entre, on va dire, la promesse républicaine et puis ce qu'on fait pour de vrai. Est-ce qu'on fait de l'égalité une réalité ou pas? Et de pouvoir la mesurer scientifiquement, en fait, de pouvoir mesurer si le droit s'applique. Et puis après, quand il y a des contradictions entre, justement, un certain nombre de textes de loi, des doctrines, d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a une doctrine qui dit tous les êtres sont égaux, les discriminations sont illégales. Et puis après, en réalité, on a loin de, de, de réaliser cette promesse républicaine. Il s'agit de voir quels sont les problèmes juridiques et quels sont les problèmes d'effectivité des politiques. Parce que on va bien s'intéresser, par exemple, à l'action pour faire sanctionner les discriminations. La loi le prévoit depuis 1972. Et il n'y a quasiment aucun procès, voire un procès par an en France contre des discriminations à caractère raciste. Alors qu'il y a des millions de cas de discrimination, pourquoi il y a un seul procès par an? Et pourquoi la lutte pour faire appliquer la loi repose sur les épaules des associations? Et pourquoi les parquets, les procureurs, les policiers, les gendarmes, les inspecteurs du travail ne font pas ce travail de faire sanctionner les pratiques discriminatoires? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique publique qui doit faire respecter la loi contre le racisme et les discriminations en France.
À SOS Racisme, vous avez été impliqué dans les fameux testings. En quoi cela consistait et est-ce que la méthode est toujours pratiquée?
Ah oui, la méthode, elle est toujours indispensable parce que, on va dire, en 1996 à peu près, quand on a commencé les opérations de testing, notamment à l'entrée des discothèques, eh bien, il y avait une pratique qui était répandue de discrimination à l'entrée des discothèques, comme à l'embauche ou au logement. Mais à chaque fois, les gens ne réussissaient pas à faire sanctionner ces pratiques parce qu'on leur disait « mais où est la preuve ? Où est la preuve qu'il y a eu discrimination ?» Et la preuve, elle est venue par la comparaison. C'est-à-dire que les auteurs d'actes racistes ne disent plus, comme dans les années 70, « sale bougnoule, je te refuse l'entrée de ma discothèque. Sale nègre, je refuse de t'embaucher. » Ils refusent en prétextant « c'est un club réservé aux habitués, votre profil ne correspond pas à l'offre d'emploi, vous n'avez pas assez de revenus. » Et pour démontrer qu'il y a discrimination, il suffit de faire la comparaison avec un autre candidat qui se présente au même moment, qui lui est de type européen, et on constate que il a les mêmes revenus et on lui fait quand même une proposition d'appartement, il a les mêmes diplômes et on lui propose quand même une embauche, et il a les mêmes vêtements, on lui propose de rentrer en discothèque, et donc les prétextes qui étaient donnés à la personne noire ou maghrébine pour le refuser n'étaient pas du tout fondés, et que derrière le mensonge, se cachait la discrimination. Donc le testing permet d'établir à toute personne honnête qu'il y a bien une discrimination. Toute personne de bonne foi, quand il voit une opération de testing, il est d'accord pour dire qu'il y a le délit qui est commis. Mais le problème, c'est encore de convaincre les juges. Parce que il faut avoir la bonne foi du juge, l'intime conviction du juge, pour qu'il puisse dire « oui, je suis moi-même convaincu en tant que juge, que je vois pas d'autre explication que la discrimination raciale pour justifier l'inégalité de traitement ». Et là, les juges ne sont pas suffisamment convaincus de l'existence des discriminations pour des raisons qui sont de l'ordre de la psychanalyse, plus que du droit. Et donc, ils ont du mal à établir que le délit a été commis quand on leur soumet un testing. Donc, les testings continuent d'être utilisés, comme au début des années 2000, mais avec une réticence grandissante de la part des juges à les reconnaître comme suffisamment convaincants pour établir qu'il y a une discrimination. L'opinion publique, elle en est convaincue. Vous regardez, il y a une vidéo d'un testing que j'ai réalisé en étant filmé, il y a très longtemps maintenant, qui est diffusée sur TikTok, qui fait des millions et des millions et des dizaines de millions de vues, qui montre très clairement que la même agence immobilière va me proposer un appartement qu'elle va refuser à une personne qui a un accent africain, alors qu'il présente exactement la même demande que la mienne. L'agence immobilière lui refuse en disant qu'elle n'a rien à louer. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, la discrimination, elle est flagrante. Le testing l'établit de manière claire. Mais pour autant, on a de plus en plus de mal à convaincre les juges de sanctionner sur la base des opérations de testing.
Et ce n'est pas uniquement un problème de preuve, comme quoi ce genre de procédé ne serait pas recevable.
Voilà, alors on a établi par un arrêt de la Cour de cassation de juin 2002 et ensuite on a mis dans la loi 1er avril 2006 que le testing est un mode de preuve tout à fait légal pour établir l'existence d'une discrimination. Donc il n'y a pas de problème juridique, c'est simplement l'intime conviction des juges qui est difficile à obtenir.
Alors j'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos combats récents à la Maison des Potes. Alors, pouvez-vous nous décrire votre association et votre rôle? Et ensuite, quelle est la Fédération nationale des maisons des potes?
D'accord. Alors, en fait, les maisons des potes, au départ, c'était des comités stop racisme, donc créés en 1985 dans tout un tas de villes. Et il y avait les comités étudiants et puis il y avait les comités de quartier. Et les comités de quartier, ceux qui étaient implantés dans les quartiers, ont décidé de mener des actions autres que la lutte antiraciste, on va dire plus sociale, de soutien au titre de séjour, ou culturel, ou de soutien scolaire. Et donc, pour englober un autre champ que simplement la lutte antiraciste, elles se sont appelées Maisons des Potes. Donc les Maisons des Potes existent dans une trentaine de villes de province et autant de villes d'Île-de-France. Chaque Maison des Potes va avoir des activités qui vont être en fonction de l'histoire de l'équipe qui anime cette maison des potes, cette association, et puis du territoire. Donc certaines vont faire beaucoup de soutien scolaire, d'aide pour trouver des stages sans discrimination, d'autres vont faire beaucoup d'accompagnement au titre de séjour, d'autres vont faire beaucoup d'activités de solidarité avec l'Afrique, d'autres vont faire des activités plus, on va dire, politiques, enfin de débats publics, de confrontation d'idées, etc. Et donc, les Maisons des Potes ont en commun la Fédération nationale, et la Fédération nationale des Maisons des Potes fait vivre le réseau national en portant des revendications communes, des plateformes de revendications qui sont portées à destination de l'opinion publique et à destination des élus, des candidats, pour essayer d'influer par l'expérience de terrain ceux qui vont prendre des décisions et qui vont adopter des lois. La Maison des Potes, donc, que je préside, Maison des Potes, Maison de l'Égalité, qui est basée à Paris au même endroit que la Fédération nationale des Maisons des Potes, elle s'est spécialisée dans deux champs. Un, l'action judiciaire contre le racisme et les discriminations, accompagner les individus qui portent plainte devant les tribunaux, réaliser des poursuites judiciaires jusqu'au procès. Et puis un volet européen qui est de coordonner un réseau d'ONG antiracistes européennes, United for Equality, qui se sont rassemblés aussi autour d'une plateforme de revendications communes, qui ont ensemble comme challenge de réussir à s'opposer à la montée de l'extrême droite au niveau européen. Voilà, donc la Maison des Potes, Maison de l'Égalité, qui mène l'action judiciaire justement dans le cas, dans le contexte des élections européennes, à l'échelle de 16 pays d'Europe, fait remonter des revendications auprès des formations politiques qui présentent des listes de députés européens afin qu'ils mettent dans leur projet un certain nombre de mesures qu'on réclame, que ce soit le droit de vote des étrangers dans tous les pays d'Europe, la régularisation des travailleurs sans papiers dans tous les pays d'Europe, l'ouverture des emplois fermés dans tous les pays d'Europe, c'est-à-dire les emplois qui sont ouverts aux Européens mais qui sont fermés aux non-Européens, qui soient ouverts aux non-Européens à égalité, et l'action judiciaire par les testings et les class actions contre les discriminations. Donc ça, c'est quelque chose qui est mené par la Maison des Potes avec le réseau United for Equality au niveau européen. Et le volet judiciaire, c'est un volet qui s'est développé beaucoup ces dernières années, parce que plus on mène de procès, plus on forme d'avocats, plus on est d'accord disponible pour pouvoir mener d'autres procès. Et donc, on a un rythme assez effréné de procès dans toute la France, que ce soit contre des crimes racistes, des violences racistes, des incitations à la haine raciale, des injures racistes, des discriminations, du fichage ethnique, et même des recours administratifs, donc par exemple contre des décrets ou des circulaires devant le Conseil d'État.
Si on revient au volet judiciaire, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Adecco. Pouvez-vous nous décrire un petit peu les faits et ce qu'il en était?
En 2000, il y avait donc un jeune étudiant en ressources humaines qui faisait son stage de 6 mois au sein d'une agence Adecco à Paris, spécialisée dans l'hôtellerie-restauration. Son métier, c'était de fournir des intérimaires, de faire la sélection des intérimaires à des entreprises qui avaient besoin de serveurs, de plongeurs, de cuisiniers. Et il a été choqué de voir que ses collègues lui disent « Mais les Noirs, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui n'en veulent pas. Donc, quand tu vas recevoir un Noir, tu vas remplir sa fiche, tu vas écrire BBR s'il est blanc, PR4 s'il est noir. Et puis, après, les collègues, quand ils reçoivent les commandes des clients, ils vont te dire « Bon, donne-moi quelques intérimaires, là j'en ai besoin pour un client, mais attention, pas des PR4. Hein. » il était choqué de cette pratique de discrimination et de fichage racial. Donc il est venu vers moi en septembre 2000, et sur la base de son témoignage, j'avais pu, à l'époque au nom des SOS Racisme, envoyer un huissier de justice saisir le fichier des intérimaires fichés selon leur couleur de peau chez ADECO, envoyer un inspecteur du travail aussi, et puis j'avais pu faire une caméra cachée d'un entretien avec les dirigeants d'ADECO qui avaient tout avoué à ce moment-là en caméra cachée. Sur la base de ces plaintes, de ces éléments-là, j'avais porté plainte en mars, donc février-mars 2001. Mais il a fallu 23 ans de bataille judiciaire pour enfin obtenir le procès et la condamnation du 13 mars 2024. Donc 23 années de lutte judiciaire pour faire sanctionner un système de fichage racial qui avait concerné 500 victimes individuellement identifiées, un système de discrimination raciale pour obéir à l'ordre de dizaines et de dizaines d'entreprises qui avaient commandé soit aucun noir, soit un certain pourcentage de noirs maximum, comme l'avait réclamé Euro Disney, qui disait pas plus de 20% de noirs. Et malheureusement, donc ça a pris 23 ans, et malheureusement, les entreprises qui avaient donné les ordres n'ont pas été poursuivies. On était déjà content au bout de 18 ans d'obtenir le renvoi d'ADECO devant le tribunal, qu'on a considéré que ben, c'était la seule chose qu'on pouvait atteindre. Mais ce n'est pas le premier procès que je faisais donc là au nom de la Maison des Potes et SOS Racisme, précédemment au nom des SOS Racisme contre ADECO, puisque j'avais déjà fait condamner ADECO et L'Oréal pour un système de discrimination fondé sur le fichage des hôtesses de présentation de produits dans les supermarchés, qui devait être BBR, bleu, blanc, rouge, ou en Belgique, un système de sélection des intérimaires qui devait être blanc, bleu, belge, c'est-à-dire blanc, quoi, du nom d'une race de vache belge très importante qui s'appelle la BBB, la blanc, bleu, belge. Et donc c'est la troisième fois qu'on fait condamner à ce système de discrimination de la société ADECO. La première fois, ça avait pris 7 ans, la deuxième fois, ça avait pris 12 ans, 14 ans, et celle-là, ça a pris 23 ans. Donc on voit que la justice est de plus en plus réticente à faire sanctionner les discriminations et qu'il faut faire preuve d'une détermination et d'une longévité, parce qu'il faut tenir 23 ans de bataille, quoi, pour enfin obtenir une condamnation.
Alors, j'ai été un peu choquée quand j'ai vu le montant de la compensation que les juges avaient octroyé aux victimes. Comment expliquez-vous qu'au bout de 23 ans, une somme si petite soit accordée?
Ben, je crois que c'est un petit peu comme je disais au début. Les juges ont du mal à reconnaître ce que c'est qu'une discrimination, même quand tout le monde le reconnaît. Et les juges ont du mal à reconnaître la souffrance d'une discrimination raciale, le préjudice moral, la perte de dignité, l'atteinte à la dignité, la perte de confiance en soi, le traumatisme, le mal que ça fait que de savoir qu'on n'est pas accepté à cause de sa couleur de peau. Les juges ont beaucoup de mal à reconnaître que ça c'est grave, que ça fait mal et que ça doit être réparé à hauteur du mal que ça procure. Ils ont beaucoup de mal à le reconnaître. Si une star a été prise en photo et qu'on a montré son corps, que ça ne lui plaisait pas, les mêmes juges sont prêts à lui accorder au titre de préjudice moral 50 000 euros. Mais si une personne dit « moi, on ne m'a pas apprécié parce que j'étais noir », bon, bah, pour les juges, là, ça vaut que 1 200 euros. Il n'y a que 20 victimes qui ont pu réclamer réparation sur les 500, parce que les autres, on n'avait pas réussi à les recontacter. Elles ont obtenu chacune que 1 200 euros, donc c'est dérisoire. Aux États-Unis, elles auraient obtenu 1 million d'euros chacune.
Exactement.
Donc il y a vraiment un problème de la part des juges de reconnaître le mal qu'est la discrimination raciste. Donc les entreprises, finalement, une entreprise comme ADECO, ne va pas considérer que c'est la sanction financière qui sera difficile à assumer pour elle, mais ça sera uniquement la sanction morale, le préjudice, la sanction morale d'une condamnation prononcée au nom du peuple français. C'est ce qui va faire du mal à l'entreprise, et le montant, elle va considérer que c'est dérisoire. C'est le prix d'un petit-déj qu'elle organise pour les actionnaires, qu'elle doit donner à chacune des victimes, quoi.
Alors, vous avez évoqué les clients commanditaires, on a beaucoup parlé de Disney. Pourquoi cette entreprise n'a pas été condamnée?
Il y a en effet une quinzaine de personnes qui travaillaient dans la déco qui ont dénoncé les donneurs d'ordre de discrimination, les clients, et presque la moitié d'entre eux avaient indiqué que parmi les donneurs d'ordre, il y avait Disney. Donc sur la base de ce témoignage de tous ceux qui disent « voilà, je commettais moi des discriminations pour le compte de Disney », il y avait largement matière à faire renvoyer Disney devant le tribunal. Mais là aussi, il faut tomber sur des policiers ou sur des juges qui ont la même intime conviction que nous et que tout un chacun, qu'aucun des salariés n'avait de raison d'aller inventer que celui qui demandait le plus de discrimination, c'était Disney. Ils n'avaient aucun intérêt à le faire, aucun d'entre eux. Et donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient bien eu des ordres de discrimination. Et notamment la numéro 2 de l'agence, qui était cadre, qui disait qu'elle avait tous les jours des problèmes avec Disney, qui lui disait « il y a trop de noirs, il y a trop de noirs, il y a trop de noirs, il faut diminuer la dose des noirs, on n'en veut pas plus de 20%. » Pourquoi est-ce que les juges n'ont pas considéré que ça méritait de renvoyer devant Disney devant le tribunal? D'abord parce que l'enquête a été faite souvent à reculons. C'est-à-dire qu'au début, l'enquête était faite correctement, les deux premières années. Ils n'interrogeaient pas, par exemple, les personnes qui étaient directement les correspondants de l'agence ADECO chez Disney, ceux qui donnaient les ordres de discrimination. Ils n'ont même pas été entendus. Il n'y a eu aucune confrontation. Ils n'ont pas été confrontés. Ceux qui disent, voilà, ils me donnaient des ordres de discrimination, celui qui a dit ça n'a pas été confronté à celui qui est identifié comme donneur d'ordre de discrimination. Donc l'enquête a été faite à reculons. Pour empêcher que la lumière soit faite, et on avait contre nous le procureur de la République. Grégory Veil, procureur de la République, demande le non-lieu en faveur d'ADECO en disant « Bon, écoutez, peut-être qu'au début, ce système a été inventé pour discriminer les Noirs, mais finalement, après, c'était pour discriminer les étrangers, donc finalement, c'est pas grave. » C'est des écrits complètement incroyables de la part du procureur pour demander le non-lieu. Donc on avait une très forte réticence des juges d'instruction, du procureur de la République, de faire aboutir les poursuites contre les donneurs d'ordre. Mais de la même manière, en Belgique, on avait réussi à faire condamner l'entreprise ADECO et il y avait 100 clients identifiés comme donneurs d'ordre qui voulaient que des BBB. En Belgique aussi, aucun n'a été renvoyé devant le tribunal. Et ce n'est pas que dans les cas des systèmes de discrimination à l'embauche qu'on a ce problème. Même quand on a eu à attraper des agences immobilières qui avaient fait le fichier des propriétaires qui ne voulaient pas d'étrangers, et bien dans ces cas-là aussi, les agences immobilières ont été condamnées, mais les 250 propriétaires qui, à Toulouse, disaient à l'agence sud-location « on ne veut pas d'étrangers », n'ont pas été embêtés. Et dans cette histoire-là, par exemple, c'est un petit peu pareil, c'est une histoire de quels moyens on met pour ces types d'infractions. Le commissaire avait dit au procureur « j'ai pas les moyens d'aller enquêter sur les 250 propriétaires donneurs d'ordre, donc je ne ferai pas cette enquête ». Dans ce dossier, ADECO, comme dans le dossier de l'agence immobilière sud-location, c'est une histoire de volonté de mettre les moyens pour ce type d'enquête ou pas. Le juge considère qu'on ne va quand même pas reprendre à chaque fois l'enquête pour la faire correctement, même si la Maison des Potes avait obtenu devant la chambre de l'instruction que les demandes d'actes qu'on avait réclamées soient réalisées. Et les juges ne les ont pas réalisées. Ils disent, c'est trop de travail, je ne veux pas m'embêter à courir après les gens sont injoignables, c'est trop difficile, il y a trop d'énergie à mettre pour établir que telle personne de telle entreprise avait donné tel ordre. Voilà, donc c'est beaucoup de travail d'établir la responsabilité individuelle du donneur d'ordre. Ça nécessite beaucoup de volonté et de moyens d'enquêteurs. Et la justice n'a pas voulu les mettre. Le juge d'instruction n'a pas voulu les mettre. Les juges d'instruction n'ont pas voulu les mettre dans ce dossier ADECO. Et c'est pour ça que Euro Disney a été épargné.
Okay. En plus du racisme, il y a une montée de l'antisémitisme en ce moment. Alors, le 8 juillet prochain aura lieu à Metz le procès en appel de la Maison des Potes contre les 5 adolescents profanateurs du cimetière juif de Sa Réunion en 2015. Ces jeunes auraient été endoctrinés à Strasbourg. Faut-il en avoir peur?
Alors oui, c'est clair qu'il y a de quoi avoir peur quand on, on voit que des adolescents donc qui sont nés, on va dire, en 2000, sont capables de défendre des thèses qui étaient celles des national-socialistes en 1930 et qui sont capables de chanter des chansons à la gloire de Hitler, « Je suis un bon nazi ». On va dire qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux entre eux des images qui valorisent l'esclavage, qui dégradent le juif, qui incitent à la Shoah et qui considèrent que le travail n'a pas été terminé et qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'il faut faire l'extermination totale et qui sont endoctrinés à l'idée que les chambres à gaz ne servaient pas à tuer, mais simplement à désinfecter les détenus, et que si les chambres à gaz avaient contenu des gaz pour exterminer les populations, et les populations n'avaient qu'à casser les vitres dans le camp de Struthof. Et ces jeunes-là, qui sont animés de cette idéologie-là, ne sont pas des gens qui sont loin du monde politique, ce sont pour l'essentiel des enfants d'élus des communes d'Alsace, des neveux d'élus ou des enfants d'élus, des frères d'élus qui ont été attrapés pour avoir commis ces dégradations et ces profanations, qui sont animés donc d'une haine du juif qui est enseignée par leur famille et qui est enseignée par des gens qui sont élus. Bon. Et qui siègent comme adjoint, premier adjoint, etc., dans des municipalités d'Alsace, ou de Lorraine plutôt. Après, le fait que ces jeunes aient été formés au national-socialisme, chaque samedi, place Kléber, par un groupe de néo-nazis, qui a pignon sur rue, qui recrute les jeunes parmi les paumés, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, et qui réussissent à les endoctriner, parce qu'en même temps, bon, ils viennent de familles qui étaient racistes, qui étaient antisémites, donc c'est plus facile, mais qui leur enseignent qu'il faut continuer de provoquer la peur chez les juifs. Leur projet, quand ils ont fait la profanation du cimetière juif, c'était de faire en sorte qu'on arrête de faire croire que les juifs sont victimes d'antisémitisme en France, et que les attentats du mois de janvier 2015, du mois de février 2015, contre l'hypercachère et contre Charlie Hebdo, avait quelque chose à voir avec l'antisémitisme. Ils considèrent que tout ça, c'est une intoxication organisée par les juifs et les puissances de l'argent qui voudraient continuer de diriger le monde, et que donc il faut encore plus aller commettre des attentats pour dire que finalement les juifs feraient mieux d'avoir peur au lieu de vouloir dominer le monde. Donc c'est vraiment, ils ont cette doctrine-là qui était enseigné. Ce sont des jeunes qui donc sont en lien avec le Front National, c'est-à-dire que le meeting qui a précédé la profanation, c'était la veille à Lunéville, le meeting de Jean-Marie Le Pen, auquel participaient les cousins, les oncles des jeunes profanateurs, peut-être les parents d'un des profanateurs qui vient de Lunéville, que l'avant-veille, la même bande était au meeting de Bruno Gollnisch, à la fac de Strasbourg, alors que son meeting a été interrompu par les jeunesses communistes, déclarées que Gollnisch était antisémite, qu'il était négationniste et qu'il n'avait pas à venir dans la fac de Strasbourg. Et donc Gollnisch a fait une autre conférence après au siège du Front National de Strasbourg, auquel participaient des jeunes de sa réunion, dont le jeune chef de file de sa réunion. L'ambiance, c'est le Front National derrière, qui est le parti des parents, des oncles, des tantes de ces jeunes, et ce parti Front National qui, juste après la profanation, et c'est ça le négationnisme perpétuel, a fait des déclarations par la bouche de Marine Le Pen, de Florian Philippot, de Marion Maréchal Le Pen, qui avaient déclaré que non, finalement, ces profanations n'avaient rien à voir avec le Front National, ni rien à voir avec l'extrême droite, que c'était le fait d'antifascistes, que c'était le fait d'islamistes. Donc, ils ont considéré qu'il fallait disculper immédiatement l'endoctrinement du Front National, que ça ne pouvait pas être eux, et il fallait que les journalistes cessent de suspecter la mouvance du Front National d'être à l'origine de l'endoctrinement de ces gamins dans l'idéologie nazie. Et leur intox, l'intox du Front National, a marché. Puisque la presse, d'un seul coup, a cessé de se poser la question du lien entre des néo-nazis et le Front National. Et comme la mode était à dire « Mais non, il n'y a plus de néo-nazis au Front National », la révélation que ces jeunes étaient au Front National et qu'ils étaient nazis venait perturber la nouvelle vitrine que Marine Le Pen essayait de présenter du Front National, qui était celle de dire « Le Front National a changé ». C'est plus un parti de néo-nazis, c'est plus un parti de nostalgique de Vichy. On n'a plus rien à voir avec l'antisémitisme de nos parents et de nos grands-parents. Et on n'est plus concerné. Et que finalement, maintenant, c'est les islamistes, les antisémites. Et pendant que les enquêteurs établissaient que les jeunes étaient des néo-nazis du Front National, Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen essayaient d'expliquer qu'il fallait aller chercher du côté des islamistes.
Mais quelle que soit la nature antisémite du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon, aujourd'hui, lorsqu'on se promène place Kléber, justement, à Strasbourg, on a plus peur de ceux qui chantent « Libérer Gaza » que des néo-nazis qui sont pour autant invisibles.
Alors, moi, je pense que la peur, de toute façon, elle peut venir de toutes parts. Je pense que les agressions antisémites, quelle que soit leur motivation, que ce soit un coup, que ce soit une insulte, qu'elles blessent autant, elles font autant de mal que la personne qui tienne des propos antisémites le fasse parce qu'il a une éducation d'extrême droite Front National ou le fasse parce qu'il est actuellement mobilisé en soutien à la population de Gaza. La personne qui reçoit un coup ou qui reçoit une insulte a mal dans les deux cas.
Je vous remercie beaucoup d'être venu en parler sur Radio JDK.
Merci à vous de m'avoir invité. Et j'espère qu'on va pouvoir, réveiller la conscience antiraciste, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est au travers des procès aussi, c'est d'amener les gens à se réveiller, à s'unir contre le racisme, à s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de dangers que ce qu'on pense et qu'il faut vraiment, le prendre à bras-le-corps et l'affronter, affronter le racisme partout où il se déploie.
Tout à fait d'accord avec vous. On termine sur une note musicale.